Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent par Zoom. Ensemble, nous voulons partager la parole de Dieu et remercier Dieu qui nous a fait grâce d'être là ce matin et puis de l'écouter. Parce que Dieu veut nous renouveler, nous encourager et nous faire du bien. Comme l'a dit ma sœur, que ces chants, les paroles sont fortes et que les paroles nous touchent. C'est vrai. C'est vrai. Quand chacun et chacune rentrera chez elle à la maison, chez lui, rappelez-vous de ces paroles. Ces paroles sont tellement fortes et que cela puisse nous aider encore tout au long de cette semaine et puis les jours à venir à nous rappeler de cela et à placer Dieu devant nous. C'est vrai qu'il y a le feu dans nos vies. Il y a parfois des situations difficiles que nous traversons. Et nous ne savons pas comment éteindre ce feu. Mais la solution vient de Dieu. Et c'est lui qui éteint tous ces feux dans nos vies. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, encore une fois, me vas-tu devant toi pour te dire combien, Seigneur, devant ta parole, je suis qu'un exécutant. Et c'est toi, Seigneur, qui parleras à ton peuple. Tu m'as choisi de pouvoir partager cette parole à ton peuple en ces jours. Mais Seigneur, toi seul parleras à ton peuple. Que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, soit une grâce qui vient de toi. Une bénédiction qui vient de toi, un encouragement qui vient de toi. Seigneur, sois exalté au milieu de ton peuple. Sois béni au milieu de nous. Que ton nom soit élevé, Seigneur, au milieu de ton peuple. Que ta bonté, Seigneur, se manifeste en nous en ce matin. Et que, Seigneur, tes encouragements soient pour nous, Seigneur, une protection au nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, bien-aimé. Aujourd'hui, nous constatons que les hommes traversent une époque difficile, n'est-ce pas? Une époque très, très difficile, où le feu sont allumés partout. Ça complique tant de choses. Une époque dure, une époque indéfinissable, incompréhensible. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi sommes-nous dans cet état? Comment nous allons nous en sortir? Une époque difficile. Et dès que les choses se compliquent, l'homme en général se panique. Qui n'a jamais paniqué? Qui n'a jamais paniqué? La peur ou la crainte l'envahit. L'homme se panique quand la situation se complique devant lui. Cette peur ou cette crainte, bien aimé, n'a pas de préférence. Nous la trouvons chez les riches, tout comme chez les pauvres. Nous la trouvons chez les croyants, tout comme aussi chez les non-croyants. Chez des hommes haut placés, des autorités, des grands généraux dans l'armée. Nous les trouvons partout, cette peur en nous. Mais Jésus, notre Seigneur, a dit ceci: vous aurez des tribulations. Vous entendrez les bruits de quoi? De guerre. La famine va saisir certains peuples. Des pandémies, et nous y sommes encore aujourd'hui. Oui, nous entendons toutes ces choses. Mais ici, Jésus s'adresse à qui? À nous, les croyants. Nous entendons toutes ces choses, mais ne craignez rien. N'ayez pas peur, car moi, votre Seigneur, je fais quoi? J'ai vaincu le monde. Cet encouragement nous concerne, bien-aimés, nous qui sommes en Christ, nous qui avons foi en Christ et Jésus. Les gens du monde, ou les non-croyants, que nous pouvons les appeler ainsi, vont nous dire, mais si votre Dieu existe, pourquoi il y a toutes ces choses? Pourquoi traversons-nous toutes ces choses? Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous crainte? Pourquoi ça ne marchait pas? Jésus a dit dans Jean 17 que nous tous, ça soit eux, nous les croyants, nous vivons tous dans ce monde. Mais nous, nous avons un statut particulier. Nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous sommes tout autre. Dans notre vie, vous savez, nous avons chacun de nous beaucoup de défis à relever. Qui n'a pas un défi à relever dans sa vie? Même les plus jeunes ont des défis à relever. Des objectifs à atteindre. Des projets en tête. Nous avons chacun de nous des projets en tête. Peut-être bien ficelés ou mal ficelés ou en gestation. Et dans tous ces projets, dans tous ces défis, la crainte et la peur les accompagnent. La crainte et la peur accompagnent ces défis, accompagnent ces projets, accompagnent ces objectifs. C'est pourquoi est-il un péché d'avoir peur? Non. La peur, c'est normal pour un être humain. La peur est normale pour un être humain. Pourquoi? Car l'homme n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait. Il suffit juste de voir tout ce qui se passe autour de nous, comme un de nous l'a dit ce matin. De voir, d'entendre le nombre de gens qui arrivent au suicide, bien-aimés. Le nombre en est grand. Au désespoir, à des troubles psychologiques, et voire même à des traumatismes graves. Combien de gens, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, et ça soit dans les quartiers, les gens nous racontent beaucoup de choses. Nous entendons beaucoup de choses. Et tout cela pour constater quoi? La fébrilité de l'homme et l'incapacité de l'homme de résoudre certains problèmes. Notre sœur Patricia a dit, en voulant chanter ses chants, elle a dit que malgré nos défauts, nos imperfections, c'est vrai, malgré nos défauts et nos imperfections, ceci n'est pas la raison d'avoir peur. Malgré que je suis imparfait, malgré que je suis, j'ai mes défauts, mais est-ce que c'est une raison d'avoir peur? Certes, nous sommes imparfaits. Nous sommes limités. Mais notre Dieu, lui, il est illimité. Notre Père est illimité. Il est parfait. Dans sa perfection, il accomplit toujours des choses parfaites. Ça, c'est notre Dieu. Alors, qu'est-ce que signifie la peur? Qu'est-ce que signifie la peur pour nous? La peur, bien-aimé, est un sentiment naturel. C'est un sentiment naturel. Parfois, assez fort pour bloquer nos pensées. La peur arrive à bloquer, bien-aimé, nos pensées et nous fait agir parfois impulsivement. Quelqu'un, parfois, quand il a peur, il agit impulsivement. Parce que la personne a peur. La peur arrive même à nous détourner de l'essentiel. La peur, ça nous détourne de l'essentiel. Mais elle peut être aussi protectrice. Ah, la peur peut être protectrice. C'est le bon côté de la peur. Je prends un exemple. Quand on se promène dans la forêt, ou quand on prend une décision en famille, en groupe d'amis, ou avec les enfants, nous disons que bon, écoute, nous allons visiter le zoo, les toiries ou d'autres zoos de félins en province, où il y a des lions, des tigres, des léopards, etc. Nous sommes contents d'aller voir ces animaux, comment elles sont ces bêtes, comment elles vivent, etc. Mais si nous ne prenons pas des précautions avant d'y aller, nous risquons de laisser notre vie. Nous risquons de laisser notre vie. Je me rappellerai toujours quand les enfants étaient encore jeunes, nous sommes allés à Toiri, parce que là, il faut dans une voiture. Et puis, je voyais les dangers des animaux qui passaient de travers devant la voiture, qui venaient même se planter devant une voiture comme ça. C'est dangereux. Donc, si nous ne prenons pas des précautions, nous pouvons même laisser nos vies. Alors, on s'est promené dans la forêt. Bon, ici, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de serpents, mais un serpent peut se cacher dans, sous les herbes, et puis ça nous mord. Voilà, on se blesse, et puis les venins, etc., etc. Donc, il y a des précautions à prendre. Donc, quand nous visitons, nous allons nous promener ou visitons les eaux, etc. D'où alors cette peur d'être dévoré, cette peur d'avoir un incident ou de se blesser devient alors une sécurité pour nous. Ça devient cette peur-là, j'ai peur, mais ça, c'est une protection pour moi. Je me protège, j'y vais. Donc s'il faut mettre les gants, je mets les gants. Il y a les orties partout, je dois faire attention, je ne vais pas aller en short parce que je mets mon pantalon, etc., etc. Cette peur devient une sécurité. Mais par contre, elle peut être aussi néfaste, la peur. Elle devient aussi néfaste si elle prend trop d'ampleur et trop d'importance dans notre quotidien. Quand la peur prend trop de place dans notre quotidien, elle devient néfaste, bien-aimé. Dans ces cas-là, la peur devient, ou la crainte devient un ennemi. Devient un ennemi. Pourquoi ? Parce que la peur nous déstabilise. La peur nous paralyse. La peur nous met en difficulté et nous rend inactifs face à une situation quelconque, n'importe quelle situation. Là, la peur devient néfaste. Là, la peur devient un ennemi pour nous, la crainte aussi. Mais une chose est vivre avec la peur et la crainte ne nous permet pas d'avancer. Ne nous permet pas d'avancer vers les destinées que Dieu a prévues pour nous. Elle risque même de nous en éloigner. Parce que j'ai peur, incapable même d'aller à l'église. Parce que j'ai peur, je ne peux pas même prier. Parce que tant de choses, la peur et la crainte, nous rend esclaves de certaines choses. Autre chose à dire, la peur c'est quoi ? La peur, c'est une arme fatale de l'ennemi. Le diable, n'oublions pas, utilise la peur. Pour faire quoi, quand il utilise ça? Pour ouvrir des portes, ou des portes de destruction dans nos vies. Satan veut nous détruire par la peur ou par la crainte. Tu crois que tu vas arriver? Tu crois que tu vas arriver? Dans ce projet, tu réussiras? N'importe quoi, tu n'arriveras jamais. Quand tu écoutes cette voix, ça te paralyse, ça te démoralise. Ça te met mal au point. Tu as peur de t'engager. Donc, c'est une arme que Satan utilise pour nous détruire. Dans la Bible, Satan est appelé qui ? Destructeur. Il détruit. Il est égorgeur. Il tue. Il est tueur, pour ne pas me répéter. Ou encore, c'est un voleur. Ah, si vous lisez, aujourd'hui vous avez déjà lu Jean 10, vous trouverez tout cela dedans, dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Notre peur, bien-aimée, ne changera que si nous nous confions en l'Éternel et en lui tout seul. Alors, si j'ai dit ça, mais qu'est-ce qui les confirme? Voilà ce qui les confirme. Il y a plusieurs verset qui les confirme. Mais j'ai choisi celui-ci. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu n'arriveras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne réussiras pas. Tu es nul, incapable. Toutes ces accusations qui viennent du malin pour nous déstabiliser, nous détruire. Mais l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur de cette parole? De qui aurais-je crainte? Oh, même quand tout le monde t'abandonne, bien-aimé. Vous savez, il y a des gens qui sont abandonnés à cause de la gravité de leur situation. Ils sont abandonnés. Quand tu te sens incapable, quand l'avenir fait peur. Vous savez, aujourd'hui, j'ai partagé avec une de nos filles qui disait, mais papa, tu entends ce qu'on dit qu'à partir de janvier, on va commencer à couper l'électricité. Ça engendre quoi? La peur, l'inquiétude. Mais comment on va se laver? Comment on va faire ceci? Comment on va faire cela? Tant de questions on se pose. Quand l'avenir fait peur, de quoi sera-t-il fait le lendemain? Je ne sais pas. Tout ce qui se passe, ouh, tu entends l'Ukraine? Mais on va nous bombarder, on va lancer des bombes H ou etc. Des bombes nucléaires. Mais qu'est-ce que nous allons devenir? Il suffit de respirer. Mais nous entendons ça partout ces derniers temps. Nous les entendons partout. Et la crainte nous saisit parfois. Ça nous fait trembler. Mais Dieu dans sa toute-puissance. Dieu dans sa toute-puissance, bien-aimé, nous invite ou t'invite à ne pas avoir peur ni crainte. Peu importe la hauteur de la montagne, bien-aimé, que nous avons en face, c'est-à-dire la situation que nous avons en face, n'ayons pas peur, n'ayons pas crainte, nous dit l'Éternel dans ce psaume 27:1. Mais par contre, en tant qu'humains, nous sommes conscients et conscientes que la vie n'est pas, comme on dit, un long fleuve tranquille. N'est pas un long fleuve tranquille, bien-aimé. Mais heureusement, Dieu est là. Heureusement, il est là pour nous protéger, nous frayer le bon chemin, opérer des miracles dans nos vies, nous rassurer et nous encourager. Heureusement qu'il est là, notre Dieu, car il peut tout faire dans nos vies. Dieu peut tout faire dans nos vies. Et il nous fera réaliser même des grandes choses que nous ne pensions même pas réaliser. Ça, c'est Dieu. Un évangéliste anglais disait que Dieu est capable de vider même la mer pour donner à manger à un de ses enfants qui a faim. Charles Spurgeon. Dieu est capable de dévaliser la mer parce qu'il n'y a qu'un seul de son enfant qui crie à lui, « Papa, je fais, je n'ai rien à manger. » Dieu est capable. Il est capable d'accomplir toutes ces choses que personne ne peut les faire. Peuple de Dieu, nous vivons des temps périlleux. Les temps sont périlleux, ne nous cachons pas. Les temps sont mauvais. Ou les esprits démoniaques, les esprits de la haine, les esprits de meurtre, des vengeances, sont très présents dans le monde. Quand Jésus a dit « Vous aurez des tribulations », à qui il s'adresse? À ces esprits mauvais. Ce sont ces esprits mauvais qui déstabilisent les hommes, qui vont troubler les hommes. Ce sont ces esprits-là. Et ils sont présents. Ils sont présents dans le monde. Dans le monde des ténèbres, vous savez une chose, dans cette ville de Créteil, Satan, il a placé son chef. Il y a un général dans cette ville, dans le monde des ténèbres, qui est là, qui fait paralyser tout le monde. Nos projets, nos plans, il les fait paralyser. Chaque ville, Satan a ses agents. Parce que Dieu, Satan n'est pas omniprésent. Non. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Satan, il n'est pas omniprésent. Il est limité. Puisqu'il est limité, il a des agents partout. Il a ses agents partout qui opèrent, qui déstabilisent, qui détruisent. Ils sont très présents dans le monde. Ils prennent possession de beaucoup de gens et les dominent. Il est important que nous sachions qu'il existe un lieu de refuge. Puisque ces esprits mauvais existent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment savoir par la foi qu'il y a un lieu de refuge. Au fur et à mesure que les choses avancent, mais pas dans le bon sens, la criminalité augmente. Nous voyons aujourd'hui la criminalité augmente. Les enfants arrivent même à tuer leurs parents, etc., etc. Des choses impossibles à entendre et à voir. nous avons peur. Nous avons la crainte. Même quand nos enfants vont à l'école le matin, parfois comme parce qu'ils ont des téléphones, comment tu vas bien? Tout ça, c'est quoi? C'est la peur. C'est la crainte. Pour savoir que si mon enfant est bien arrivé à l'école, moi parfois, quand hier, il y a une de nos filles qui est passée à la maison, qu'est-ce que je lui dis? Mais envoie-moi un texto si tu es bien arrivé. Elle envoie les textos, oui, papa, maman, je suis bien arrivé. Voyez un peu comment, dans nos imperfections, dans nos manquements, dans notre faiblesse, ce que nous sommes. Oui, la peur ou la crainte, pour nous-mêmes, pour nos enfants bien-aimés, pour nos proches. Nous craignons pour eux. Mais n'oublions pas que le combat est spirituel, parce que les démons, les esprits mauvais, sévissent de ce monde. C'est pourquoi Jésus nous a dit, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas dans le monde. Parce que nous sommes à part, nous vivons dans le monde, mais nous sommes à part. Nous sommes à part. Parce que nous savons que ce combat est spirituel. Les démons de la terreur, de la peur, de la crainte, répandent ses venins partout sur la terre. Et parfois même, ça va plus loin, transformant certaines personnes en criminels, terroristes. Il les transforme en terroristes. Nous disons que, mais ça, ce n'est pas humain ce qu'il a fait là. Pourquoi nous disons ça? Parce qu'un être humain ne peut pas accomplir un tel acte. Il n'y a que s'il est possédé par des démons, des esprits mauvais pour accomplir un tel acte. C'est pourquoi, n'oublions pas que ces démons de la terreur, de la peur, de la crainte, ils sont là. Ils sont là. Mais n'ayons pas peur. Mais n'ayons pas crainte. En ces temps mauvais, difficiles, incompréhensibles, car nous possédons, bien aimé, je l'ai dit, nous possédons une protection. Pourquoi ne pas avoir peur? Parce que je sais que je suis protégé. Lisons le psaume 91, verset 4, que vous connaissez. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, entre parenthèses la vérité, est un bouclier et une cuirasse. Qui est notre protecteur ici dans tout cela? C'est Dieu. C'est Dieu bien-aimé qui est notre protecteur. N'ayons pas crainte, lui-même il est dit, ni peur, n'ayons pas ni crainte ni peur. Je suis avec toi tous les jours. Et ici, il dit, je te couvrirai de mes plumes. Oh, vous avez déjà vu partout, peut-être, pas ici, certains, peut-être des petits jeunes qui sont nés ici. Mais nous, on a vu, par exemple, une mère poule, quand il voit les corbeaux rôder autour, hein, quand les corbeaux croissent, quoi, ils cherchent à manger, ils voient des petits poussins qui piquent de gauche à droite. Et puis, dès que la maman entend les cris, parce que les petits ne savent pas encore discerner les cris de l'ennemi, la maman, quand elle entend ça, la mère poule, elle crie et ses petits viennent sous ses ailes. La mère poule les couvre. Et Dieu dit qu'il nous couvrira de ses plumes sous ses ailes, bien-aimés. Comme une mère poule prend soin de ses petits et les corbeaux ne voient plus rien. Ils voient que la mère poule. Satan, quand il veut nous attaquer, quand Dieu nous couvre, bien-aimé, Satan ne voit plus rien. Il voit que Dieu, mais il ne peut pas s'approcher. Et nous, nous sommes sous ses ailes. Quelle protection divine, bien-aimé. Mais il y a tant de versets dans la Bible qui nous parlent que nous ne devons pas avoir peur. J'ai choisi quelques versets d'encouragement à ne pas avoir peur ni crainte. Mais pourquoi ces versets? Pourquoi lisons-nous ces versets et faire confiance à ce que Dieu a dit? Pourquoi? Jérémie 1, verset 12 nous dit simplement que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Voilà pourquoi nous devons faire confiance à Dieu. Pourquoi nous devons bien aimer, donc lui dire que « Père, je n'ai pas crainte parce que je sais que tu es avec moi ». Il a dit à Jérémie, Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand il te dit que je te couvrirai de mes plumes, et il le fera. Dieu n'est pas un menteur, il le fera. Quand il te dit que n'ayez pas peur ni crainte, je suis avec toi, n'ayez pas peur par la foi ni la crainte, parce que il est avec toi. Ésaïe 41, 10, que vous connaissez très bien. Ce verset nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Quelle assurance que nous avons quand Dieu parle. Il parle, il dit que je ne crains rien, mon enfant. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. C'est moi qui te donne la force. Tu as battu, mais c'est moi. Je suis là avec toi. Je viens à ton secours. Même quand les gens ne peuvent plus pour toi. Mais je suis là. Je suis ton soutien. Chacun de nous aimerait entendre Dieu lui parler ainsi, n'est-ce pas? Chacun de nous, moi le premier, j'aimerais entendre que Dieu me parle ainsi. Je suis assis, j'entends qu'il me parle. Écoute mon enfant, ne crains rien. Dans ta situation, ne crains, je suis avec toi. Oh papa, c'est toi qui me parles. Chacun de nous aimerait entendre Dieu lui parler ainsi. Parce que Dieu est un père. Il nous connaît, nos faiblesses, nos manquements. Il nous considère comme ses enfants. Quand il dit que je vous prends sous mes ailes, il nous considère comme ses enfants bien-aimés. À cause de qui? De Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité. Frères bien-aimés et mes sœurs, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Quand Dieu est pour moi, pour toi, qui sera contre nous? Personne. Oh, cette union avec Dieu qui est si fort, aussi tendre d'un père aimant. Mais dans ma faiblesse, je sais que personne ne sera contre moi. Bien-aimé, quand la peur ou la crainte envahissent notre être tout entier. Alors Dieu qui est pour nous n'en demeure pas silencieux. Il nous assure sa présence. Chaque fois que nous avons peur, que nous avons crainte, il nous assure sa présence, bien-aimé. Alors, si nous savons cela par la foi, réjouissons-nous de sa divine présence, bien-aimé. Réjouissons-nous de sa divine présence à nos côtés. Car rien n'échappe à son contrôle. Rien. Rien n'échappe à son contrôle. Une fois, j'avais perdu ma clé. J'ai dit à quel de la maison. J'ai dit, mais Seigneur, où j'ai oublié la clé, je ne sais pas. Mais toi, tu sais là où il y a la clé. Tu sais, toi, Père, tu le sais. Tu sais comment, dans quelles circonstances, tu le sais. Moi, là, je me panique. Le trousseau, où est mon trousseau, les clés, tout, la voiture, la maison, l'église, tout, c'est dans mon trousseau. J'ai perdu le trousseau. J'ai paumé ça où? Père, tu le sais. Je suis fatigué de chercher, je vais dormir. Mais Seigneur, tu peux m'aider à retrouver mes clés, s'il te plaît, papa. Je me réveille. Laurine est encore petite. Il dit, papa, papa, j'ai trouvé tes clés. Moi, je ne savais même pas où étaient les clés. Laurine, où elle a trouvé les clés? J'ai dit, c'était où? Mais c'était là, papa. Et quand j'ai cherché, on n'a pas trouvé. La panique m'a envahi. Et puis, pour vous dire que j'étais même énervé sur moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, la peur nous pousse même à réagir impulsivement. Méchamment même. Tu peux dire à ce moment-là, mais va là-bas l'enfant. L'enfant ne comprend même pas pourquoi tu es énervé. Mais tu l'envoies balader. Sors de là. Parce que tu as peur, tu as quand tu dis que si je perds ça, que ça va arriver, que ça va donner. C'est lui qui a ramassé ça. Et nous avons une mémoire courte parfois. Mais notre Dieu émerveillé, il nous rappelle. Bien-aimé. Oui, Dieu ne demeure pas silencieux. Il nous assure sa présence. Le psaume 23 au verset 4 nous dit ceci. Ah, vous connaissez bien ce verset. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah voilà, dans ma faiblesse, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je tremble. Je me panique. Mettons-nous à la place du roi David. Quand il part de la vallée de l'ombre de la mort, David était las. David était fatigué, bien-aimé. Épuisé de résister, de combattre, de lutter. David était fatigué. C'est pourquoi il a dit ça. Il était fatigué, David. Aux souffrances, aux attaques, aux traits enflammés du malin, aux attaques tous les jours de Satan et de tous ceux qui les entouraient. Il était fatigué, le roi David. Mais regardons un peu dans la nature. Les vallées, c'est quoi? Les vallées, sont entourées, bien-aimés, des montagnes et des petites collines. Imaginez que tu te retrouves dans une des vallées. Je regardais à la télévision il y a quelques années, je voyais un village, donc c'était vraiment dans la vallée, comme ça, des montagnes. Je vous dis, mais le village était en bas. Et ça faisait peur de vivre là. Je disais, mais s'il pleut ou quelque chose comme ça, mais le village est emporté par l'eau, par des pierres, si ça tombe, etc. Oui, les vallées sont entourées des montagnes et des collines. Et tout cela, ça nous fait peur. Imagine que tu es dans une vallée, comme ça, tu traverses tout seul, comme David dans la vallée de Baca, vallée de la mort. Il traverse, et devant lui, il ne voit personne. Et tout d'un coup, il y a un ennemi qui se présente devant toi. Derrière, tu ne peux pas reculer. Ça fait peur dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ça fait tellement peur. Mais bien-aimé, ce matin, il se peut, je n'en sais rien moi, il se peut que tu sois ou tu es en train de traverser cette vallée. Je ne sais pas. Il se peut que un de nous, ce matin, est en train de traverser cette vallée. Les vallées des Baca, des pleurs, des craintes, des tremblements, des peurs, où tu ne vois que des montagnes. C'est-à-dire que des situations difficiles ou de l'incertitude, bien-aimé, le doute est envahi dans ta situation personnelle ou pour toi, pour tes enfants ou pour ton mari, etc. Ou pour tes proches, cousins, cousines, etc. Il se peut que tu traverses cette vallée ce matin. Des choses insupportables. Tu dis, mais est-ce que j'arriverai à faire face? Je prends un exemple, la maladie. Quand ça nous attrape, ça nous déstabilise, ça nous paralyse. Je vois mon épouse hier, avant-hier, on n'a pas bien dormi. À cause de sa polyarthrite, elle n'arrivait même pas à marcher en dessous de ses plantes des pieds, ça faisait très mal. À chaque fois, j'étais obligé, toute la nuit, je n'ai pas dormi cette nuit. J'étais là en train de l'aider, d'être avec elle, parce qu'elle souffre. Elle ne peut pas marcher. Vous vous rendez compte, tu ne peux pas marcher. Quand tu poses un pied, tu sens comme s'il y a des épines. Ça fait tellement mal, la polyarthrite. Elle est dans cette vallée. Elle souffre. Elle a peur du lendemain. Elle s'est dit, mais qu'est-ce... Elle ne savait pas de quoi devrais-je parler. La maladie. Le désespoir peut aussi l'envahir. Elle dit, mais ça fait longtemps que je souffre de ça. Nous prions, nous faisons ceci, nous jeûnons. Le désespoir peut arriver, bien-aimé, dans cette vallée. J'ai pris seulement l'exemple de mon épouse. Le désespoir peut arriver. Voire même, les pires, l'ennemi qui est pur, c'est quoi? C'est la mort. Dans la vallée, David sentait, il dit, mais c'est ma mort. Quand on est malade, on est au bout. Quand les médecins ne peuvent plus rien faire, on dit que bon, ben, je suis désespéré et c'est la mort. Mais n'ayons pas crainte. Même quand on traverse, quand Dieu dit que tu vas traverser la vallée de Baca, des pleurs, des souffrances, la vallée de l'ombre et de la mort, quand tu vas traverser, je serai avec toi. Je te tiendrai par la main. Ma droite est triomphante. Si ce n'est pas ton jour, tu traverses avec Dieu. Mais si l'appel est là, tu partiras. Le jour est arrivé. Et il va aussi préparer, t'accompagner bien jusqu'au demeure. C'est ça. S'il dit, tu traverseras. Cette épreuve, tu la traverseras. S'il dit que voilà, que non, ça s'arrêterait là. Que je te prendrai, tu ne seras plus de ce monde. Il va aussi te faire traverser cette vallée de Baca, des pleurs, où les autres vont pleurer pour toi, etc. Il va te conduire jusqu'à cette demeure qu'il a préparée et réservée pour chacun de nous. Amen. Ça, c'est notre Dieu. N'ayons pas peur ni crainte. Rien. Mais sachant que le secours de l'homme peut manquer. Ça, il ne faut pas l'oublier, le secours de l'homme peut manquer. Appelez tous les médecins, regarde ceci. Le médecin arrive et dit, je ne peux rien faire. Je prie seulement l'exemple du médecin, mais il y a d'autres exemples aussi. Le secours de l'homme peut nous manquer. Mais soyons rassurés et déclarons. Nous devons, pour que la parole de Dieu soit ferme, pour que la parole de Dieu aujourd'hui puisse porter des effets dans nos vies, nous devons la déclarer. Nous devons déclarer la parole de Dieu. Nous devons citer la parole de Dieu. Père, tu as dit ça. Tu as dit ça pour moi, papa. Nos enfants nous font ça. Hein? Ma petite fille me dit, mais papy, tu m'as dit ça. Ben oui, elle a raison. Notre Dieu, c'est notre papa. Papa, tu m'as dit ça dans ta parole. Je crois ta parole par la foi. Alors, si tu m'as dit ça, j'attends de toi ça, papa. C'est ça, notre Dieu. Déclarons avec foi que je ne crains aucun mal. Comme David l'a fait. Quand je traverse, je ne crains aucun mal. Donc, déclarons cela, car nous savons que Dieu est avec nous. Il est avec nous, bien-aimés. Oui, peuple de Dieu. Dans la vie, nous aurons toujours, ça n'oublions pas, excusez-moi de pointer les doigts, parfois c'est mal élevé, mais c'est... Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc dans la vie, bien-aimés, nous aurons toujours des moments sombres. Si nous avons traversé un moment sombre, il y a de cela une semaine ou quoi, ou un an, deux ans, alors faisons ça pour attendre encore l'autre moment sombre qui va venir demain ou après-demain. Préparons-nous. Comment nous préparer? C'est dans la parole de Dieu. C'est en récitant la parole de Dieu, en faisant foi dans la parole de Dieu, en faisant confiance en l'Éternel et en lui tout seul. Oui, bien que Dieu met autour de nous des gens qui peuvent nous venir au secours, mais ça c'est Dieu. Parce que j'ai placé ma confiance en lui, lui il va utiliser qui il veut pour moi, quand il veut pour moi. Ça c'est lui. Oui, nous aurons des moments sombres. Rappelons-nous, c'est que Dieu a dit à Jérémie. Pourquoi je l'ai dit que nous aurons des moments sombres? Nous aurons des attaques. Nous aurons toutes sortes de choses qui vont essayer de nous déstabiliser et qui vont même nous déstabiliser. Parfois même nous ridiculiser. Parfois. Mais, bien-aimés, rappelons-nous de ce que Dieu a dit à Jérémie. Quand on va lire le texte, vous allez comprendre. Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre. Qui me feront la guerre? Qui me feront la guerre? Ce sont des esprits mauvais. Ceux qui veulent à ma destruction. Ceux qui ne veulent pas mon bonheur. Ce sont eux, bien-aimés, qui sont là. Mais Dieu dit qu'ils te feront la guerre. Ils ont fait la guerre à David. Ils nous le feront aussi. Ils ont fait la guerre à Jésus-Christ, le roi des rois. Ils nous le feront aussi. Satan est présent partout. Mais, ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quelle grâce, quel réconfort, quel encouragement. Quand nous lisons cette parole, je dis, mais Seigneur, tu l'as dit. Tu l'as dit. Je disais à ma fille, une fois, je dis, ma fille, papa, mais tu vas au travail, ceci, c'est là, je ne comprends pas mes collègues, ceci, c'est là. Je dis, va lire Jérémie 1, 19. Tu comprendras. Ils te feront la guerre. Ils sont poussés par les esprits mauvais pour t'attaquer, pour faire du mal. Mais ne crains rien. Toi, ne fais pas du mal, n'iras pas le mal. Toi, fais confiance à Dieu. Prie pour eux. Défends-toi par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une arme offensive et défensive. Et Dieu te délivrera. Après quelques temps, ah papa, oui, c'est vrai. Dieu m'a délivré. Telle personne qui faisait ça, on l'a muté, on l'a déplacé. On l'a muté ailleurs. Dieu est capable d'accomplir des choses que nous n'attendons même pas. Il est tout puissant. Si je demande à chacun aujourd'hui qu'est-ce que Dieu a fait, on va rester jusqu'à minuit ici. Josué 1, verset 9. N'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ouf, la notre faiblesse. Hein. Nous nous décourageons facilement. Mais Dieu vient vers son serviteur. N'étais-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Hein. C'est même pas un conseil, mais c'est un ordre. Dieu dit, je t'ai donné un ordre. Tu dois l'exécuter. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il sera là avec toi, bien-aimé. Ici, quand on parle de Josué, cet homme de Dieu, l'appel de servir Dieu, bien-aimé, pour chacun de nous, est une responsabilité, une très grande responsabilité de servir Dieu. Et cette responsabilité de servir Dieu est attachée aussi à une grande bénédiction. Cependant, cette responsabilité, bien qu'elle soit grande, bien qu'il y a des bénédictions derrière, mais quand on est à la commande, quand on sert Dieu, ça sème parfois les doutes. Ça nous fait parfois peur d'aller de l'avant, de servir Dieu quand Dieu nous appelle. Et ça nous amène même à fuir la mission. À fuir la mission. Nous lisons parfois des livres, des témoignages. Mais si cela est vrai, mais cela est vrai bibliquement. Regardons Moïse. Quand Dieu appelait Moïse, bien-aimé, pour le servir, pour sortir son peuple, Dieu l'avait choisi, appelé, choisi. Il savait. Mais qu'est-ce qu'a fait Moïse? Moïse, il a dit, mais non, mon Dieu. Mais non, je ne peux pas. Je ne suis pas capable de parler à ton peuple. Il y a mon frère, Aaron, qui sait bien parler, son grand frère. Il dit, prends Aaron qui sait bien parler. Moi, je ne sais pas parler. Parce que Moïse, simplement, il bégayait. Vous savez, quand il faut parler à un peuple, vous voyez, par exemple, un président, je prends un exemple simple. On a vécu tous les élections présidentielles. Et puis, celui qui veut se présenter au président, il bégaye. Et il va faire des discours. Mais c'est tout un combat. Donc, Moïse se voyait incapable dans ces situations de parler. Et pourtant, il avait d'autres atouts. Mais Dieu l'avait choisi quand même. Dieu l'avait choisi quand même. Je prends Jérémie, le prophète des malheurs. On appelle prophète des malheurs parce que tout ce qu'il annonçait, c'était que le mal pour le peuple d'Israël. C'est une mauvaise chose pour eux. Quand vous lisez Jérémie, il n'y a que ça dedans. Il y a aussi des choses réconfortantes, encourageantes. Mais Jérémie, quand il a vu ça, mais quand j'ouvre ma bouche pour parler que ça, ah non, je sais qu'il y a un enfant, mon Dieu, je sais qu'il y a un enfant, je ne peux pas. On prend l'autre exemple, je m'arrête à cet exemple-là. Le troisième, Gédéon. Mais je suis le plus vil de tout. C'est une tribu de Manassé, ce n'est pas moi que tu vas choisir. Même dans cette tribu, je suis le plus faible et le plus nul. Mais je t'ai choisi, moi. Moi, ton père, je t'ai choisi. C'est toi que je veux. Et tous les trois, ils ont un point commun, c'est quoi? C'est, oh, c'est trop dur, je me désengage. Je m'en vais, j'abandonne. Et nous avons tous entendu les pasteurs qui ont abandonné les missions pastorales. Hein. Il y en a beaucoup. et qui sont retournés travailler parce que c'est trop dur. Quant à nous, bien-aimés, nous qui sommes ici, ou pour nos enfants, nous savons que la mission n'est pas pour nous. Non, la mission n'est pas pour nous. Quand nous travaillons ici, nos bien-aimés, nous tous qui travaillons là, la mission n'est pas pour nous. La mission, bien-aimés, est pour celui qui nous a enrôlés. C'est lui qui nous a travaillés et qui nous a appelés, pardon, de travailler dans sa mission, le Maître Jésus-Christ. Nous œuvrons, nous travaillons pour lui. Alors, si nous travaillons, nous œuvrons pour lui, et lui qui a dit que vous aurez des tribulations, vous aurez ceci, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu tout ce que vous allez subir. Alors, bien-aimés, si cela est dans sa volonté, que Dieu m'a appelé, allons-y. Il est là avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera là, toujours présent, du début jusqu'à la fin. Lui-même, il est dit dans Matthieu 28 que je serai avec vous tous les jours. Alors, si tu m'as choisi père ou maître, tu m'as choisi d'aller là, mais je sais que tu es là avec moi. J'aurai des coups, des bâtons, des blessures, je vais tomber comme un petit enfant qui apprend à marcher, tombe et pleure, etc. Et puis un beau jour, il est bien stable dans ses pieds, il court, il marche. Dieu savait la mission qu'il avait confiée à Josué. Il savait bien que dans cette mission, bien-aimé, nous dit les textes, sera parsemé de quoi ? Des obstacles, des embûches, des difficultés. Josué était confronté à ses ennemis. Il devait se battre avec ses ennemis, avec l'armée qu'il avait, que Dieu lui a donnée. Il devait se battre. Mais il devait aussi gérer. Josué devait aussi gérer un autre combat qui était là, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il devait le gérer. Ce peuple était un peuple indocile. Un peuple désobéissant. Un peuple dur. Un peuple rétif. Mais il devait gérer toutes ces choses-là. Ah non, c'était trop dur pour Josué. C'était trop dur pour lui. Mais, comme nous avons lu, ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Ne t'effraie point, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Quand Josué s'est rappelé de ça, il dit, Père, j'y vais. Parce que je sais que tu es avec moi. C'est pourquoi n'ayons pas peur à cause des échecs, vous savez. On peut faire quelque chose et puis on laisse les échecs. Mais vous savez, comme on dit, les échecs font quoi ? Pardon ? Oh là là, vous êtes timide. Les échecs font ? Grandir. Vous le savez, mais pourquoi vous hésitez? Vous croyez que j'allais dire le contraire? Mais non. C'est comme vous, je pense comme vous. J'ai dit que les échecs sont là pour nous faire grandir. Je tombe ici, et une équipe de football, quand il a échoué, il a été battu, il dit, je prends conscience, ils vont travailler le match, ils vont voir leurs échecs, ils vont faire ceci. Mais les échecs sont là pour nous faire grandir. Oui, n'ayons pas peur des échecs. Si Dieu a promis à Josué, ne t'effraie point, je serai avec toi. Et c'est la même chose pour nous. La promesse de Dieu est valable pour nous encore aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier avec Josué. Et il sera aussi aujourd'hui avec nous. Et après nous, il sera toujours le même, notre Dieu. Nous arrivons au dernier verset que nous allons partager ensemble. C'est Jérémie 29, verset 11. Ah, ça vous le connaissez très bien, même par cœur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui nous encourage. Je sais les projets que j'ai formés pour toi. Je le sais. Je suis omniscient. Je le sais. Bien-aimé, il y a des questions que nous nous posions tous les jours, que nous nous posions souvent. Pour notre avenir, on se pose des questions pour notre avenir. On se pose des questions pour nos enfants, l'avenir de nos enfants. On se pose des questions pour nos proches. On te pose tant de questions. Et ces questions, parfois, sont récurrentes, n'est-ce pas ? Elles sont récurrentes, c'est-à-dire que ce sont des questions qui reviennent tout le temps dans nos pensées, dans nos discussions, dans nos partages, nos échanges. Ces questions arrivent souvent. Elles sont répétitives. Et sont là répétitives ces questions-là. Chez les croyants, les non-croyants, nous attendons au travail. Oh là là, quel monde on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce que ça va devenir demain après demain? Tout ce que nous voyons, nous entendons, les flèches tombent de partout, les bombes partout. Ce sont des questions répétitives. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de plus en plus difficile à vivre. Beaucoup de nos projets dans la tête, nous avons chacun de nous, comme j'ai dit, des défis à relever. Les projets dans la tête ont des peines, voire même à décoller. Je ne sais pas, chacun de nous, nous avons des projets ici. Nous avons des projets. Il y a certains ou certaines qui ont des projets de créer des entreprises, d'acheter une maison, etc., etc. Mais avec la peur et la crainte, ils se disent, mais comment, si je fais ça, comment je vais rembourser ma dette? Si tout s'écroule, comment je vais faire? Ah, la peur m'interdit d'avancer. La peur m'interdit d'aller, d'agir. La crainte me dit non, le doute est là. Pourquoi? Parce que je regarde aux circonstances au lieu de regarder à celui qui est au-dessus des circonstances. Dieu. Je regarde aux circonstances qui sont limitées, que Dieu a vaincues. J'ai peur d'avancer, de réaliser ce que Dieu a prévu pour moi. Jérémie nous l'a dit. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur. Tout ça, ça concerne et les non-chrétiens, et même les chrétiens, de créer des entreprises, d'avoir peur. Celles et ceux qui s'étardent à se marier ont peur de voir. Mais j'ai 30 ans. Surtout quand ils voient qu'une petite jeune fille de 25 ans, 24 ans qui vient de se marier, et moi qui ai 30 ans, 32 ans, il n'y a personne qui m'a demandé la main. C'est la peur. C'est la crainte. C'est le doute qui est là. La personne s'est dit, excusez-moi les termes qu'on entend toujours, « Ah, mais celui-là ou celle-là devient un vieux garçon ou une vieille fille. » C'est mépriser l'autre, n'est-ce pas? On méprise l'autre, devient un vieux garçon. Est-ce que Dieu a dit ça? Que ma fille, tu deviens un vieux garçon? Est-ce que ma fille, pardon, une vieille fille, pardon, ou mon fils, tu deviens un vieux garçon? Est-ce que Dieu a dit ça? Il n'a pas dit ça. C'est le mépris. C'est le monde, comme dit mon frère Gilbert. C'est le monde qui agit comme ça, qui raisonne comme ça. Notre langage doit être propre, clair, pour faire du bien et non du mal. Alors, si nous avons déjà utilisé ces langages ou pensé comme ça, et enlevons ça à notre vocabulaire, on ne peut pas dire à quelqu'un que tu es une jeune fille, une vieille fille ou un vieux garçon. Non. Mais, n'oublions pas que ceux qui tardent à se marier ont peur de voir leur âge, pardon, avancer. Ils disent, mais jusqu'à quand? Celles et ceux qui ont de la peine à trouver du travail, après un long et brillant cursus, Bac+5, Bac+6, etc. Ils se disent, mais Dieu, tu m'as aidé, chrétien ou pas chrétien, je suis allé jusqu'au bout, j'ai eu mon diplôme, master, etc. Je n'arrive pas à trouver du travail. Ou alors si je trouve un travail, mais ça ne sert à rien parce que mon diplôme ne sera pas valorisé. Je vais travailler comme femme de ménage, moi, qui a Bac+5+6. Ou éboueur, moi qui a ceci, c'est là. Ah, ça fait peur tout cela. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Eh oui, ça fait peur. Je ne peux pas obtenir une fonction, la valeur de mon diplôme. Je dois travailler comme ceci, comme cela. Et pourtant que j'étais assis à l'école pendant 5 ans, 6 ans. Après le bac, j'ai fait encore 5 ans, 6 ans ou 7 ans, etc., comme le médecin, et de me retrouver comme ça. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire encore une fois ce matin. C'est si qu'il y a un grand bonheur pour celles et ceux qui s'attendent à l'Éternel. Il y a un grand bonheur. Pourquoi? Parce que Dieu a formé des projets pour nous. Mais ces projets ne sont pas des projets de malheur. Ce sont que des projets de bonheur. Et dans ces cas-là, soyons aussi clairs. Quand ce sont des projets, mes projets, doivent être aussi les projets de Dieu. Quand je m'assieds pour dire, papa, voici mon projet, il faut que Dieu donne son accord dans ce projet. Donc, je ne peux pas, dans ce projet, le faire tout seul. Je le fais avec lui. C'est avec lui que je fais ce projet. Je vais acheter une maison. Père, est-ce que c'est dans ton projet? Je veux me marier avec cette fille que j'ai vue là, ou avec ces garçons. Est-ce que c'est dans ton projet? Je vais voyager, je vais aller dans tel endroit. Est-ce que Dieu n'est pas contre qu'on voyage? Il le veut bien. Mais est-ce que tu veux que j'aille dans ce pays ou cet endroit? Tous nos projets doivent être cohérents avec les projets de Dieu. Quand il dit que ce ne sont pas des projets de malheur, mais nous devons l'associer à tous nos projets. Si nous le mettons à l'écart, advienne que pourra pour chacun de nous. Mais quand nous sommes avec lui dans le projet, alors Dieu nous accompagne jusqu'au bout dans ce projet parce qu'il le veut. Oui, bien-aimé, Dieu n'exclut aucun de ses enfants dans son plan. Parce que simplement, notre Dieu est un papa aimant, un papa amour, fidèle, juste, bon. Il tient toujours à ses promesses. Toujours il tient à ses promesses. Il est aussi bienveillant, notre Père. Il garde toujours de la provision pour tous ses enfants. Ah, on dit qu'aujourd'hui, on n'a plus à manger. Mais dans la mer, il y a toujours des poissons. Dans la forêt, il y a toujours des gibiers. Il y en a toujours à manger pour nous. On veut fabriquer ceci, le bois, il y a toujours la forêt. Donc, Dieu, il a toujours, dans sa bienveillance, il garde toujours de la provision pour tous ses enfants et pour sa créature. Alors, nous tous, vous allez voir à la fin, nous tous qui nous posons des telles questions, bien-aimés, des questions récurrentes, qui nous reviennent souvent, laissons Dieu s'occuper de notre carrière professionnelle. Ceux qui sont dans cet état, j'ai travaillé ou je veux finir mon cursus cette année, qu'est-ce que ça va donner, vous les jeunes qui êtes par exemple à la fin de l'année de votre cursus? N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, ni doute. Dieu est avec vous. S'il a permis que vous allez jusqu'au bout dans vos études, il sera aussi avec vous pour que vous trouviez un travail. Un travail. Pour le glorifier. Il vous aidera. Alors, laissons Dieu s'occuper de notre carrière professionnelle. Laissons Dieu s'occuper de nos familles. Laissons Dieu gérer nos projets. Laissons-le faire. Ceux qui veulent se marier, laissez Dieu agir. Pour finir, j'ai un secret. Un secret pour chacun, pour chacune. Quel est ce secret? C'est toujours que la parole de Dieu, que la crainte, la peur, le doute et toutes ces choses, les stress, toutes ces choses qui nous empoisonnent dans notre vie, bien-aimés, ne doivent plus avoir place dans nos cœurs, dans nos pensées. Non, bannissons la crainte, bannissons toutes ces choses, proclamons la victoire, car Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ est en nous, c'est la victoire. En Christ, nous avons le salut, le pardon, et puis nous avons la victoire en lui. Alors, cette étape de la victoire nous appartient. La victoire de Jésus-Christ sur la croix est notre victoire. Proclamons-la. N'ayons pas peur. Proclamons cette vérité. Que sa victoire est ma victoire. Tu as vaincu l'ennemi, et si tu l'as vaincu, parce que moi je t'appartiens, je n'appartiens pas au diable. Satan c'est mon ennemi, c'est ton ennemi, c'est mon ennemi. N'ayons pas peur de les déclarer. Il faut les dire. Oui, c'est vrai que nous sommes faibles, mais bannissons toutes ces choses. Car avec Dieu, pour finir, nous ferons quoi? Des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui qui règne dans nos vies. Amen. Que ces quelques mots d'encouragement puissent nous aider. Utilisons la parole de Dieu, chacun de nous, pour vaincre l'ennemi. Il est là pour nous faire peur. Mais n'ayons pas peur ni crainte, car Dieu est avec nous. Dans toutes circonstances, dans toutes difficultés, dans toutes sortes de montagnes, il est là, il ne nous abandonne pas. Alors, passez un bon après-midi. Bon appétit à chacun et à chacune. Dieu vous aime et Dieu nous aime.